L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Vous allez bien? Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous un verset, ce sera notre verset de référence dans Matthieu, au chapitre 23 et au verset 23. Matthieu, chapitre 23 et au verset 23. Et le titre du message, c'est « Ne négligez pas ce qui est le plus important ». Ne négligez pas ce qui est le plus important. Matthieu, chapitre 23 et verset 23. Père, je te remercie alors que nous allons dans ta parole. Merci parce que tu viens nous parler. Et là où tu trouves un cœur sensible, un cœur tendre, un cœur assoiffé, tu viens l'amener à des changements et tu viens nous transformer petit à petit et nous amener de gloire en gloire au travers de ta parole. Père, nous nous humilions devant toi, nous savons que nous avons besoin de changer. Nous avons besoin d'être transformés, nous avons besoin de croître et de grandir au travers de ta parole. Et nous voulons vraiment grandir, nous voulons changer, nous voulons recevoir ta parole avec un cœur sincère et vraiment se poser les bonnes questions et opérer les changements, les transformations nécessaires pour vivre une vie sur cette terre qui te soit agréable en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Merci parce que c'est toi qui viens rendre cette parole vivante dans nos cœurs. Merci pour les cœurs qui sont tendres, qui sont disponibles, qui sont réceptifs pour recevoir ta parole ce matin. Amen. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. » Luc 11, 42 rajoutera « et l'amour de Dieu ». Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Donc voilà encore une parole dure de Jésus envers les pharisiens. Et l'une des choses qui a le plus fâché Jésus lorsqu'il était sur la terre, c'était l'hypocrisie religieuse. Et ici, Jésus va parler donc aux spécialistes de la loi, ces pharisiens hypocrites, en leur disant que finalement, ils s'acquittent avec vraiment scrupuleusement d'une partie de la loi, mais ils oublient la partie la plus importante de la loi. Et dans la loi de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire, tout est important, rien n'est à laisser de côté. Ce n'est pas que la dîme n'est pas importante, ce n'est pas que semer des offrandes pour le Seigneur n'est pas important, tout est important. Par contre, il y a des choses plus importantes que les autres. Et on va parler de ces deux types de choses. Il dit, vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi. Et c'est facile dans nos vies de laisser de côté ce qu'il y a de plus important. À cause de tout ce que nous devons faire dans cette vie, à cause de tout ce que le Seigneur nous appelle à faire, et tout simplement de ce que la vie nous appelle à faire, et notre travail, etc., nous pouvons facilement oublier ce qu'il y a de plus important. Dans nos travails, même lorsque nous pouvons travailler pour Dieu, nous avons rencontré des gens, peut-être des hommes et des femmes qui étaient dans le ministère, et qui disaient au bout d'un moment, j'ai oublié ma relation avec Dieu. Et parfois, il arrive des événements dans nos vies qui nous font nous dire « j'ai délaissé les choses qui étaient les plus importantes pour Dieu ». Et Jésus a parlé dans les évangiles et il a dit « lorsque tu pries, va dans le lieu secret, ferme ta porte. » Et là, prie dans ce lieu secret et ton Père qui te voit te le rendra. Et l'une des choses importantes, c'est de pouvoir nous mettre à part pour le Seigneur et pouvoir avoir une véritable relation d'intimité avec Dieu. Jésus dit donc, malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens, hypocrites. Donc l'hypocrisie, c'est vraiment quelque chose qui a fâché Jésus, c'est quelque chose qu'il reprochait régulièrement aux pharisiens. Et l'hypocrisie ou l'hypocrite, c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Par ses paroles, par ses actions, par son attitude, il essaie de démontrer aux gens quelqu'un qu'il n'est pas réellement. Et en adoptant le nom de chrétien, nous devrions adopter toutes les vérités que contiennent la parole de Dieu. Si nous nous faisons appeler chrétiens, nous devrions appliquer ce que la parole de Dieu dit au sujet des chrétiens ou dit au sujet des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le nom de chrétien ne veut plus dire grand-chose parce que justement, il a été utilisé par des gens qui étaient tout sauf de véritables chrétiens. Donc aujourd'hui, les chrétiens, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 11, l'apôtre Paul disait « Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, se disant frère, serait dans la débauche ou avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. » Donc, si nous portons le nom de chrétien, nous devrions avoir les attitudes du croyant. Nous devrions manifester de plus en plus les paroles, mais aussi les actions des enfants de Dieu. Une des choses qui caractérisait les premiers chrétiens, c'est l'amour. L'amour se manifestait partout au travers de leur vie. En fait, c'est comme Jésus l'a dit, le désir de justice, la bonté et la foi, ou la fidélité dans d'autres traductions. Donc le chrétien n'est pas celui qui en porte le nom, mais le chrétien est celui qui en manifeste les fruits. Être chrétien, c'est manifester les fruits de ce que la parole de Dieu nous dit au sujet des enfants de Dieu. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. J'ai croisé beaucoup de gens qui se disaient chrétiens. Mon ancien voisin, en parlant avec lui, me disait, alors que je lui parlais de ce que c'est un véritable chrétien, il me disait, mais je suis chrétien. En allant dans la rue un jour, une femme me disait, mais je suis chrétienne. Et même ma propre grand-mère me disait, lorsque je lui ai parlé du Seigneur Jésus, elle dit, mais moi je suis chrétienne. Et encore une autre femme qui était âgée d'environ 95 ans me disait, je suis chrétienne. Donc aujourd'hui, chrétien, les gens adoptent ce nom. Et même parfois dans l'Église, nous retrouvons certaines personnes qui adoptent et qui portent le nom de chrétien sans avoir de fruits et les fruits du disciple. Pour beaucoup de gens, en fait, la chrétienté, c'est un acquis. C'est quelque chose, c'est un état de fait, c'est quelque chose qu'ils possèdent. Mais un chrétien, entre autres, c'est une personne qui a délibérément fait le choix de renoncer à sa vie, de renoncer à ses plans, de renoncer à ses péchés, de renoncer à sa propre volonté pour les donner à Christ. C'est une personne qui a choisi de vivre à 100% pour Christ et qui a bâti son salut seulement sur Christ. Donc rien qu'avec ces petites caractéristiques de ce qu'est un véritable chrétien, la majorité des gens qui se disent chrétiens sont déjà en dehors. Non, être chrétien, être disciple de Jésus, c'est vivre pour Dieu. Si on pouvait le résumer en quelques mots, c'est vivre pour Dieu. La Bible nous dit dans Actes chapitre 11 et au verset 26, « Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » On a appelé les disciples chrétiens à Antioche parce qu'ils se réunissaient aux assemblées de l'Église et ils enseignaient les gens. Donc nous pouvons rajouter aux caractéristiques d'un véritable chrétien, c'est qu'il va à l'Église et qu'il use de communion fraternelle. Beaucoup de gens disent « je suis chrétien », mais ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Donc on oublie que on ne peut pas porter le nom de chrétien sans en porter les fruits. Derrière le nom de chrétien, de disciple, se cache en fait un caractère. Et c'est le caractère de Christ qui doit se former jour après jour, semaine après semaine et mois après mois dans nos vies. Dieu nous appelle à une croissance. Une croissance. Nous n'arrêtons jamais de grandir. Ou en tout cas, nous ne devrions jamais arrêter. Donc, demain, Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Mais nous n'y entrerons pas sans changer, sans être petit à petit métamorphosés, alors que nous tournons nos regards vers la parole de Dieu. Dieu nous parle et Dieu nous demande de procéder à des changements. Si nous ne procédons pas au changement de Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu. Donc, le caractère de Christ. En portant le nom de chrétien, en allant à l'église, en partageant notre foi aux gens, nous sommes en train de dire au monde que un chrétien, c'est ce que je suis. Nous sommes en train, par notre vie, de dire aux gens, tu veux savoir ce qu'est un chrétien ? Alors regarde ma vie, regarde mes attitudes, regarde comment je me comporte, regarde ce qui sort de ma bouche, regarde exactement ce que je suis et ce que je vis, parce que c'est ça, un chrétien. Alors nous ne le disons pas certainement comme ça, mais quand nous partageons notre foi et que nous disons être des enfants de Dieu, être chrétiens, c'est ce que les gens vont penser. Les gens vont penser, un chrétien, un enfant de Dieu, c'est lui. Et ils vont se poser un certain nombre de questions lorsque notre attitude et nos comportements et nos actions ne vont pas refléter ce que devrait être en fait un véritable croyant. La Bible nous dit donc de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant frère, vivrait dans la débauche, vivrait dans l'idolâtrie, serait calomniateur ou encore adonné à la boisson, donc alcoolique ou voleur. Ces choses-là, elles se voient facilement. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui calomnie constamment, ça se voit facilement. Par contre, il est plus difficile de constater l'absence de ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. C'est d'ailleurs pour cela que les pharisiens et les docteurs ont pu cacher leur véritable cœur pendant de nombreux siècles aux gens. Ils ont montré une surface de la religion, ils ont montré une image de choses religieuses, mais pendant des siècles et des siècles, ils ont pu cacher ce qui était véritablement dans leur cœur. Ils se sont occupés des choses importantes de la loi, et c'était bien si elles étaient faites avec le cœur. Mais ils ont oublié les choses les plus importantes, c'est-à-dire celles du cœur. Donc, c'est difficile de constater parfois chez les gens l'absence de ce qu'il y a de plus important dans la loi lorsque nous voyons certaines actions qui paraissent être religieuses. Et les pharisiens étaient choqués lorsqu'ils ont vu les disciples de Jésus ne pas se laver les mains avant de manger, donc ne pas faire les ablutions religieuses. Pourquoi ? C'est parce que les pharisiens et la religion... Les pharisiens étaient constamment concentrés sur le paraître. La religion, c'est le paraître. Ce que je peux paraître aux yeux des gens. La façon dont les gens vont m'observer et vont me regarder. Alors certaines personnes ont développé vraiment une culture du paraître. Ils travaillent fort et ils réfléchissent beaucoup et longtemps pour pouvoir donner une belle image qui sera acceptée par les autres. Et les religieux ont beaucoup réfléchi à comment bien paraître religieux. Alors Jésus a dit qu'ils se faisaient de grandes franges dans leurs vêtements et toutes sortes de choses pour se faire bien voir aux yeux des gens, pour qu'on puisse dire eux, ce sont des gens religieux. Eux, ce sont des gens vraiment qui aiment Dieu. Mais le paraître, c'est l'ami du mensonge. Le paraître, c'est l'ami de l'hypocrisie. Est l'ennemi de la vérité. Quelqu'un qui paraît est ami du mensonge et est ennemi de la vérité. Lorsque nous faisons des choses et que nous dissimulons certains aspects de nos vies, nous sommes en train de paraître et nous sommes ennemis de la vérité. Pour paraître, par exemple, on dit lorsque certains invités arrivent de cacher certaines choses ou de ne pas faire telle ou telle chose parce qu'on veut paraître aux yeux des invités. J'ai un frère dans l'église qui nous a invités à la maison chez lui, et pour nous faire rire, il avait mis toutes les Bibles qu'il pouvait dans toutes les pièces de la maison. dont une Bible pour enfants aussi. Il avait mis nos livres bien installés dans son salon. Et c'était pour rigoler, mais c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Ils font des choses et simplement pour paraître. Mais ça n'a pas de valeur. Ça ne vaut rien. Et il n'y aura aucune récompense pour ça. Le disciple, il est différent. Le disciple, il fait disparaître le paraître. Le disciple, il s'évertue non pas à paraître, mais à être. Le disciple ne travaille pas pour paraître, le disciple travaille pour être. Ce qu'il est à la maison, il l'est dans les rues. Ce qu'il est dans les rues, il l'est à son travail. Jamais il porte un masque. Il est toujours la même personne. Et il peut être méprisé à cause de ça, mais peu importe. Celui qu'il est à la maison, il l'est en dehors. Ce qu'il dit aux gens de sa famille, ce qu'il dit à ses proches, il pourrait le dire, entre guillemets, à n'importe qui. Parce qu'il n'a rien à cacher. Jésus a dit qu'un jour, tout ce qui est caché sera mis à découvert. Et ce que vous dites en secret sera crié sur les toits. Donc le disciple, il cherche à être le plus vrai possible, à être le plus vrai possible. Il cherche à devenir de plus en plus sincère, de plus en plus vrai, de plus en plus pur. C'est le travail de son âme. La Bible dit que Jésus rassasiera son âme, le travail de son âme. Et Jésus a rassasié son âme par le travail de son âme et de ses pensées. Et le disciple travaille dans son âme et dans ses pensées, il change, il veut changer, pour être le plus pur, le plus droit, le plus sincère, le plus vrai possible. Les choses secondaires de la loi, mais qui sont aussi importantes, peuvent être facilement faites sans l'attitude de cœur. Nous pouvons donner des offrandes et ne pas avoir l'attitude de cœur, c'est facile. On peut sortir de l'argent de nos poches, pour certaines personnes c'est plus difficile, mais ce n'est pas quelque chose de dur. Par contre, les choses les plus importantes de la loi, elles sont beaucoup plus difficiles à faire sans l'attitude de cœur qui va avec. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se voient pas. Les choses importantes mais secondaires de la loi se voient. Donc il est facile de les faire sans avoir l'attitude de cœur qui va avec. Parce que nous pouvons rechercher au travers des gens une récompense. Par contre, les choses les plus importantes de la loi sont plus difficiles à faire parce que personne ne sera là pour vous dire merci. Personne ne verra peut-être ce que vous faites. Personne ne vous récompensera peut-être pour ce que vous êtes en train de faire dans le secret. Personne ne viendra vous dire merci quand vous êtes en train de prier Dieu dans votre chambre, dans le lieu secret. Par contre, si vous avez prié, et qu'après avoir prié, vous dites « j'ai prié », vous avez reçu votre récompense. Le cœur. Les choses importantes de la loi sont plus difficiles à faire sans l'attitude de cœur parce qu'elles ne se voient pas. Donc ceux qui aiment recevoir la gloire des uns et des autres, au bout d'un moment, ne les accomplissent plus parce qu'ils ne reçoivent rien en échange. Jésus dit donc au sujet des pharisiens, dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 2, « faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. » Et un peu plus loin, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour être vus des gens. Mais imaginez comment ils étaient aveuglés. Imaginez comment on peut être aveuglé. Comment on peut ne pas avoir vraiment une juste pensée par rapport à notre vie et ce que nous faisons, au point où on ne réalise même plus que ce que nous faisons, c'est pour être vu des gens. L'aveuglement qui est là. Lorsqu'on accomplit des choses pour recevoir une récompense de la part des gens. Dans Colossiens chapitre 3, verset 22, Paul dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » La crainte de Dieu nous amène à accomplir les choses importantes de la loi, les secondaires et les principales. La crainte de Dieu nous amène à effectuer des actions, à dire des paroles, à poser des gestes dans notre vie, non pour être vu des hommes, mais pour être agréable à Dieu. Donc le disciple veut être agréable à son Seigneur. Et le serviteur disciple ne fera pas simplement les choses pour être vu par son maître et être félicité ou récompensé, mais il fera et il continuera à faire les mêmes choses lorsque son maître ne sera plus là. Et certains employés, vous savez, ils sont hypocrites. Devant le patron, ils font bonne figure. Mais dès que le patron a le dos tourné, dès qu'il quitte le bureau, ils l'insultent et ils font ce qu'il n'est pas permis. Ça, c'est l'hypocrisie. Pour les pharisiens, il était facile de se faire de longues franges sur leurs vêtements, de faire de longues prières, de sonner la trompette lorsqu'ils faisaient l'aumône pour les pauvres. Par contre, lorsque ces actions ne pouvaient pas recevoir de la louange de la part des hommes, ils ne les faisaient pas. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui servait-il ? Qui servons-nous lorsque nous recherchons la gloire des uns et des autres ? Qui servons-nous réellement lorsque constamment, nous disons aux autres les bonnes actions que nous avons faites. C'est difficile pour la chair. Dans Luc, au chapitre 10 et au verset 25, vous pouvez aller avec moi. Luc, chapitre 10, au verset 25, j'aimerais vous rappeler cette parole que je vous ai partagée il y a quelques semaines, cette parabole qu'on a appelée la parabole du bon samaritain, où nous voyons des choses importantes. Luc chapitre 10 et au verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit donc à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qui est-il écrit ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais ceci et tu vivras. Mais lui voulut se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Le religieux s'était donné une image par rapport à ce que Dieu attendait de lui, où il avait essayé d'aimer Dieu comme il le pouvait, mais il le faisait la plupart du temps en se sacrifiant, mais où il avait oublié ce deuxième aspect, aimer son prochain comme soi-même. Et en fait, il était arrivé à une conclusion hypocrite qu'il ne savait pas qui était son prochain. Voilà pourquoi, voulant se justifier devant Jésus, étant repris par sa conscience parce qu'il savait pertinemment qu'il n'aimait pas ses prochains, mais qu'il vivait simplement pour être vu des autres et être apprécié des gens, il voulut se justifier. Qui est mon prochain ? Et donc Jésus lui a parlé de cette parabole. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. » Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Il répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Voilà encore une fois de plus une image très claire que Jésus nous montre, où nous voyons 2 types de personnes, le pharisien et le lévite, qui est censé avoir le caractère de la loi et qui est censé manifester quelque chose. Cette personne pharisienne qui est docteur de la loi, qui enseigne les gens, devrait normalement avoir le caractère de son enseignement. Et ce lévite qui adore constamment Dieu et qui aime, qui dit en tout cas aimer Dieu, devrait normalement avoir le caractère de l'adorateur, c'est-à-dire celui qui aime les gens. Mais ni l'un ni l'autre, en se retrouvant face à un besoin, ne vont accomplir ce qu'ils devraient accomplir de par leur nom. Nous portons le nom de chrétiens. Nous portons le nom de disciples de Jésus. Et à cause de ce nom, nous devrions avoir les attitudes que portent les caractéristiques, le caractère de notre nom. Chrétien veut dire petit Christ. Donc nous devrions nous améliorer dans notre amour pour Dieu, dans notre amour pour notre prochain. Nous devrions nous améliorer dans la façon dont nous gérons notre temps pour les choses qui sont vraiment importantes. Le Samaritain arrive là et il va s'occuper de cet homme. Il va s'approcher de lui, il va nettoyer ses plaies, il va le mettre sur sa propre monture et il va payer l'autel pour lui. Il paye un prix. Il fait quelque chose. Et ça, c'est ce qui est difficile pour l'homme psychique, l'homme intellectuel, de faire. L'homme religieux aime faire paraître quelque chose qui n'est pas. Et parfois, nous pouvons laisser paraître des choses qui ne sont pas. En continuant à se faire appeler frère, à se faire appeler sœur, à se faire appeler chrétien, si nous sommes comme ce pharisien et ce lévite, et que nous marchons dans la rue, et que nous voyons un besoin, et personne n'est là pour voir ce besoin, nous devrions faire quelque chose. C'est difficile. C'est difficile parce que ça prend du temps. Ça prend de l'argent. Ça prend notre vie, ça prend du temps, ça prend tout ce que nous sommes finalement. Voilà pourquoi c'est difficile. C'est facile d'être religieux. Mais c'est difficile, ça demande un prix à payer d'être un disciple. Donc, sur ce chemin, personne n'était là pour voir la bonne action du pharisien ou du lévite. Voilà pourquoi ils n'ont rien fait. S'il y avait une foule qui était là, ils auraient peut-être sonné la trompette, ils se seraient déplacés avec élégance vers ce pauvre homme et ils l'auraient mis sur sa propre monture pour recevoir quoi ? La louange des hommes et la couronne des hommes, la gloire des gens. Mais parce que personne n'était là pour voir, ils ont passé droit devant. Alors que lorsqu'ils le décidaient, ils sonnaient des trompettes pour recevoir de l'aumône pour les pauvres. Donc, ça s'appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelque chose dont l'homme doit être débarrassé, être hypocrite. Parce que le Saint-Esprit ne coopère pas avec l'hypocrisie. L'hypocrisie est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Être hypocrite, fermer notre conscience, fermer nos oreilles et nos yeux aux choses que nous voyons et dont le Père nous dit clairement dans notre esprit de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de l'humanité entière, mais nous pouvons répondre aux besoins que Jésus met dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de tous les pauvres sur la terre, mais nous pouvons certainement répondre aux besoins de notre prochain, de celui qui se trouve sur notre chemin et qui est attiré par nos yeux. Il est souvent plus facile de faire sortir de l'argent de notre portefeuille plutôt que d'obéir à Dieu. Il y avait dans une église un pasteur qui a prêché sur le service, et plus il prêchait sur le service, et plus il remarquait que les offrandes augmentaient. Et c'était un nouveau pasteur dans cette église, et au bout d'un moment, il a dit, mais pourquoi les offrandes augmentent ? Et les gens lui ont dit, parce qu'on veut que vous puissiez payer quelqu'un pour servir dans l'église. C'est facile de donner de l'argent, c'est plus difficile de donner de notre vie. C'est facile d'être assis sur une chaise à l'église et d'écouter un pasteur qui a préparé son message dans la prière, et nous ne sommes pas en train de servir Dieu quand nous le faisons. Le dimanche matin, c'est un moment, normalement, où les églises ont choisi de rendre un culte à Dieu. Et lorsque nous rendons un culte à Dieu, nous réalisons que parfois, nous n'avons pas rendu de culte à Dieu. Nous avons parfois chanté des chants qui disaient « Seigneur, bénis-moi » ou « Tout ce que nous sommes en Jésus », mais nous n'avons pas rendu un culte à Dieu. Nous avons écouté quelqu'un, un prédicateur, nous parler, et c'était pour nous, ce n'était pas pour servir Dieu. c'était pour être servi. Et beaucoup de gens, au fur et à mesure des semaines et des mois et des années qui passent, s'ils continuent à être servis sans servir, qu'est-ce qui va se produire en eux? C'est l'hypocrisie. Parce qu'ils vont entendre tout un tas de messages qu'ils appellent à procéder à des changements et à servir Dieu dans l'Église sans rien faire. Et l'hypocrisie va s'installer. L'hypocrisie de paroles qui sont descendues dans leurs oreilles, qui sont venues dans leurs oreilles, qui sont descendues en eux, mais qui, à cause de tel ou tel événement, n'a pas su trouver la place qu'elle aurait dû mériter. Et Jésus a parlé de ces terrains. Très belle parabole. Le semeur qui part pour semer. Et la Bible nous montre qu'à cause des soucis de la vie, ou à cause de l'amour des richesses, ou à cause d'une petite persécution, on voit que la parole s'en va. Et l'hypocrisie est remplacée par la parole et par l'obéissance. Donc certaines personnes vont sortir de l'argent facilement plutôt que d'obéir à Dieu. Certains essaient de rassurer leur conscience en donnant de l'argent à Dieu. Mais Dieu n'est pas à vendre. Dieu ne se vend pas. Il y a une femme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Michal. C'était la fille de Saül. Et un jour, elle s'est moquée de David après qu'il ait dansé de toutes ses forces devant le Seigneur. Et elle lui a dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert de la sorte aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Vous savez la différence entre cette femme et David? C'était que David était la même personne en privé qu'en public. Et Michal donnait une image devant les gens qu'elle n'était pas chez elle. David n'essayait pas d'être une autre personne. La façon dont il louait Dieu dans la rue ce jour-là était la façon dont il louait Dieu chez lui. La façon dont il louait Dieu à la fenêtre était la façon dont il louait Dieu en tout temps. Et il y a des millions de gens qui sont en enfer aujourd'hui et qui iront en enfer parce qu'ils ont voulu paraître quelque chose qu'ils n'étaient pas. Beaucoup de gens ont voulu paraître chrétiens alors qu'ils ne l'étaient pas. On peut paraître être une tomate. Nous ne sommes pas une tomate. Normalement, on ne fera jamais de nous une soupe parce que nous ne sommes pas une tomate. Et on ne peut pas porter le nom de chrétien sans en avoir les attributs, sans en avoir le langage. On disait des disciples qu'on reconnaissait leur langage parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils ont développé un langage. Je connais une église où le pasteur, et ça arrive souvent de ceux qui parlent longtemps, a développé une mauvaise habitude et répète constamment les mêmes paroles. Et tous les gens dans son église le font aussi. Parce que forcément, on ressemble aux gens avec qui on s'assemble. Et si nous portons le nom du Fils de Dieu, de chrétien, de petit Christ, nous devrions développer les attitudes, les habitudes, le langage, les actions, les gestes, les paroles de celui qui vit en nous. Dans Matthieu, au chapitre 23, au verset 23, nous avons lu « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, mais sans oublier le reste. » Certaines personnes, elles comptent scrupuleusement leur dîme. J'ai gagné 2 327 $, alors je vais donner 232,3 $ à Dieu. Elles font scrupuleusement. Mais par contre, lorsque Dieu vient parler à leur cœur et leur dire d'aimer quelqu'un, finalement, tout à coup, le scrupule qu'elles avaient, l'intensité de ce qu'elles voulaient bien faire, elles l'oublient, l'hypocrisie. Nous pouvons donner à Dieu la dîme. Et en fait, Dieu n'a pas seulement demandé la dîme dans le Nouveau Testament, Dieu a demandé tout ce que nous avons. Je sais qu'il y a toutes sortes de débats sur le principe de la dîme, qui n'est pas né dans la loi d'ailleurs, mais qui a été repris par la loi. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a demandé de tout donner. Rien ne nous appartient. Tout appartient à Dieu. L'argent que nous avons sur notre compte, la voiture dans laquelle nous roulons, la maison dans laquelle nous habitons, le sol sur lequel nous marchons, tout appartient à Dieu. Et nous ne sommes simplement que les gestionnaires des différentes grâces de Dieu. Et nous devrions vivre comme cela et apprendre à nous améliorer par rapport à la façon dont nous gérons l'argent dans notre vie, parce que tout appartient à Dieu. Spécialiste de la loi, pharisien hypocrite, il s'occupait des choses secondaires de la loi, celles qui ne coûtent pas au cœur. Il y a des choses qui peuvent coûter en argent, mais qui coûtent beaucoup moins cher que les choses qui viennent du cœur. C'est dur de s'abaisser vers quelqu'un qui vous méprise. C'est dur de s'abaisser et d'aimer quelqu'un qui ne vous rend rien en retour. Par contre, c'est plus facile de lui donner de l'argent ou de donner de l'argent à d'autres personnes pour qu'ils s'en occupent. Même si les choses secondaires peuvent nous coûter en argent, elles nous coûtent moins que les choses importantes, car les choses importantes viennent du cœur. Le docteur de la loi qui a interrogé Jésus dans Luc au chapitre 10, il s'était créé une mentalité dans laquelle je ne peux pas reconnaître mon prochain. Un service tourné envers Dieu, entre guillemets, et non vers les hommes. Or, son service pour Dieu n'avait aucune valeur s'il n'était pas relié à un service et un amour envers les hommes. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est que dans notre vie chrétienne, dans notre vie de disciple, nous oublions souvent ce qui a vraiment de l'importance pour Dieu. Nous oublions si souvent ce qui a véritablement de l'importance aux yeux de Dieu. Pour les pharisiens, ce qui leur semblait important aux yeux de Dieu, c'était ce qu'eux-mêmes avaient décidé qu'il était important et qu'il ne leur coûtait pas beaucoup. Mais nous devons vivre dans ce qui est important pour Dieu, selon Dieu. Les gens, par exemple, le peuple d'Israël, les Juifs et les serviteurs de Dieu étaient en train de jeûner constamment, sous le sac et la cendre. Ils faisaient toutes sortes de choses. Et un jour, au travers de Ésaïe, il a dû les reprendre sévèrement. Il a dit, mais est-ce là le jour que je préconise ? Un jour de deuil et de jeûne où vous vous couvrez la tête avec des sacs et où vous mettez toutes sortes de choses sur vous, de la cendre ? Il dit non. Il dit, allez dans les rues et occupez-vous des gens. Aimez les gens. C'est ce qui est important pour Dieu. Chaque jour qui passe, nous avons 24 heures. Et dans ces 24 heures, nous devrions nous occuper de ce qui est important aux yeux de Dieu. Il y a des choses importantes que la vie nous demande, faire vivre notre famille. Il y a des choses importantes que Dieu nous demande, s'occuper de son royaume. Jésus a dit, cherchez les choses du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. La majorité du temps, le chrétien cherche toutes les choses par-dessus et oublie ce qui est vraiment important. Ses yeux, ses prières, son temps, ses pensées se tournent constamment vers lui, vers ses propres besoins. Et il oublie constamment ce qui est vraiment important. Ce n'est pas que nos besoins ne sont pas importants, c'est qu'il y a des choses plus importantes. Nous avons été sauvés, mais il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Nous avons été bénis de toute bénédiction, mais il y a des gens qui marchent dans la malédiction. Nous avons été enrichis en Christ, mais il y a des gens qui marchent dans la pauvreté. Dieu nous a remplis de la joie du Saint-Esprit, mais il y a des gens qui vivent dans la tristesse. Dieu nous a tout donné en Christ, et il y a des gens qui n'ont absolument rien. Et le temps peut passer, et même lorsque nous servons Dieu, et nous pouvons oublier ce qui est vraiment important. Nous sommes pris dans nos trucs, dans nos pensées. Nous avons décidé de faire telle chose et telle chose. Nous avons tout numéroté. Nous avons tout bien fait selon nos pensées. Et finalement, selon nous, ça paraît important, mais selon Dieu, ce n'est pas important. Pour Dieu, ce n'est pas du tout là où nous aurions dû mettre nos objectifs. Parce que Dieu a d'autres objectifs que ceux des hommes. Dieu a d'autres pensées que ceux des hommes. Et c'est lorsque les hommes commencent à prendre les objectifs et les pensées de Dieu et les appliquer dans leur vie quotidienne, qu'ils commencent à devenir de véritables serviteurs de Dieu et que quelque chose de nouveau se passe au travers de leur vie. Les gens qui voient des miracles, c'est-à-dire des gens par exemple être malades au bord de la mort et être guéris totalement, sont souvent des gens qui ont appliqué ce principe dans leur vie. Ils ont pris un temps à part pour servir Dieu comme ils le voulaient. Si nous nous occupons des choses vraiment importantes, nous verrons des fruits. Nous verrons des fruits. Nous récolterons des fruits. Mais si nous sommes constamment en train de nous occuper de la barrière autour de notre champ, de la peindre, de la nettoyer, de balayer autour de cette barrière et d'oublier de semer dans le champ, à quoi sert cette barrière ? À quoi sert ce champ ? Vivre pour ce qui est important pour Dieu. Il y a un passage dans Esther, au chapitre 4, et au verset 1, c'est toute une histoire vraiment intéressante. Et on va apprendre en fait à un homme juif que quelqu'un dans la royauté, quelqu'un qui était devenu quasiment le bras droit du roi, a décidé d'exterminer le peuple juif. Il est écrit dans Esther 4:1, « Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. » Ces cris étaient très différents de ce que les autres, à qui Dieu avait repris en disant « Voilà, vous mettez la cendre sur vous » parce que ces gens n'avaient pas le cœur qui allait avec. Mardoché avait un véritable cœur qui allait avec ses actions. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Cet homme, lorsqu'il a connu ce qui se passait, ce qui se tramait pour son peuple, a eu un véritable fardeau. Un véritable fardeau. Et parmi le peuple, il est écrit que des gens aussi se sont mis à prier de tout leur cœur pour Dieu, parce que tout d'un coup, un fardeau était sur eux. Nous voyons parfois des besoins chez les gens, mais ils ne nous paraissent pas importants parce que nous ne sommes pas touchés dans ce besoin. Mais lorsque un jour nous nous retrouvons dans la situation de ce besoin, tout à coup, c'est comme si cette chose devenait la chose la plus importante. Et nous voudrions que tous les hommes et toutes les femmes puissent tourner les regards vers notre besoin, alors qu'auparavant nous avons méprisé les besoins des autres. Lorsque nous regardons et que nous faisons face aux besoins des gens, nous devrions nous dire, mais si j'étais à sa place, est-ce que je ne serais pas en train de prier ? Est-ce que je ne serais pas en train de faire ce qui est nécessaire pour l'aimer, pour répondre à ses besoins, pour faire quelque chose, pour que ma vie puisse changer ? Si souvent, on s'occupe de nous et on est prêt à faire des efforts pour les choses de notre vie, mais pas pour les autres. Et parfois, il arrive des circonstances où nous réfléchissons. Nous nous tenons devant Dieu. Dieu éclaircit nos pensées. Et Dieu nous dit, regarde le zèle que tu avais quand tu voulais avoir telle ou telle chose. Comment tu pouvais éloigner tout ce qui était prévu dans ton emploi du temps et prendre une heure ou deux heures ou une après-midi ou une journée à part ou une semaine pour faire ce que tu avais prévu. Et lorsque je te mets à cœur de t'occuper d'une personne, ça va te prendre 30 minutes ou une heure. Tout à coup, tu n'as plus le même zèle. Dieu veut que nous puissions le servir. Et c'est son message pour nous ce matin. Que nous puissions nous occuper des choses importantes. Les choses les plus importantes pour Dieu. Ce qui va faire la différence et ce qui va nous différencier du monde, c'est l'amour. Oui, que nous aurons les uns envers les autres, mais aussi l'amour que nous allons démontrer pour le monde. Il y a des gens dans l'Église qui sont là avec des besoins, et nous ne connaissons même pas leurs besoins. Et cela devrait changer. Nous devrions tous ensemble nous améliorer. Nous devrions vraiment être à la poursuite de comment puis-je répondre aux besoins des gens. Et je l'ai dit, nous ne pouvons pas répondre aux besoins de tout le monde. Mais cela ne doit pas être un prétexte ou une excuse pour ne rien faire. Nous devons commencer quelque part, faire quelque chose, avec les dons que Dieu nous a donnés. Et finalement, dans Esther, au chapitre 5 et au verset 8, celui qui avait manipulé le roi pour qu'il puisse avoir l'accord de tuer tous les Juifs se retrouve devant Esther et devant le roi. Et Esther va dire, « Si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je répondrai explicitement au roi. » Esther 5, 9. Aman sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Cet homme, il vivait vraiment pour le regard des gens. Il était tellement content. Il pensait que le lendemain, il allait avoir les honneurs de Esther et du roi. Soudain, Aman vit Mardoché à la conciergerie royale. Cet homme était jaloux de ce Mardoché qui ne voulait pas s'humilier devant lui. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur au sujet de Mardoché. Mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zérek. Aman leur fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué, en l'élevant en dignité au-dessus des princes et des serviteurs royaux. Cet homme a montré tout ce qu'il avait. Il s'est enorgueilli. Et dans son orgueil, il a appelé des gens pour leur montrer tout ce qu'il avait. Il était tellement fier, tellement orgueilleux. Et même leur dit-il, « C'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. » Et il dit, « Pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi, tant que je pourrai voir ce juif Mardoché en place à la conciergerie royale. » Il dit, « Tout cela n'est rien pour moi, mais en fait, c'est faux. » Il a appelé tous ces gens, simplement pour montrer ce qu'il avait. Il aimait tellement être apprécié des gens, être reconnu, être honoré. Mais en plus de ça, il voulait tuer un homme juste. Sa femme Zérek et tous ses intimes lui dirent, « Qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées, et demain matin tu diras au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. » La chose plut à Aman, il dressa la potence. Mais cette nuit-là, le roi eut un rêve. Pardon, il n'arrivait pas, à s'endormir. Et donc, il a ressorti des rouleaux. Et dans ces rouleaux, on lui a fait la lecture. Et il s'est souvenu de bonnes actions que Mardoché avait faites. Et ce Aman est venu au moment où le roi lisait ces choses. Et le roi a posé la question à Aman, il lui a dit, « Que ferais-je pour un homme lorsque je veux l'honorer aux yeux de tous ?» Et Aman pensait que c'était lui qu'il voulait honorer. Alors il lui a dit tout ce qu'il devait faire. Tu devrais prendre un cheval et l'honorer et crier, etc. Il lui a dit, « D'accord, tu vas faire ça pour Mardoché. » Il est tombé de haut. Oh oui, l'orgueil précède la chute. Et lorsqu'il se retrouvait devant Esther et devant le roi, alors qu'il pensait être honoré, on l'a pendu. Esther a dit, « Voilà cet homme qui a voulu tuer mon peuple. » Cet homme, il vivait pour lui. Il vivait pour le regard des autres. Il vivait pour ses propres besoins. Il vivait constamment tourné, les yeux vers lui. Mais Mardoché avait les yeux tournés et Esther avait les yeux tournés vers les besoins du cœur de Dieu et vers le peuple de Dieu. Deux types de personnes totalement différentes. Dans Néhémie, on peut lire son histoire et réaliser que cet homme, lorsqu'il a su, dans Néhémie au chapitre 1, lorsqu'il a posé des questions par rapport au reste, ils lui ont dit, « Ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. » La Bible dit que lorsqu'il a entendu tout ça, il s'est assis, il a pleuré et pendant plusieurs jours, il a pris le deuil, il a jeûné et il priait Dieu. Et il a commencé à faire toutes sortes de changements, à payer le prix pour qu'on fasse les choses comme Dieu les voulait. Et au chapitre 13 de Néhémie, on peut voir qu'il y a des choses qui avaient été instaurées dans le service pour Dieu. Par exemple, on avait pris une chambre qui était normalement prévue aux offrandes qu'on apportait à Dieu. Et dans cette chambre avait été placé quelqu'un qui l'utilisait pour son propre compte. Et on ne payait plus les Lévites et ceux qui servaient Dieu. Alors ils s'étaient enfuis parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour vivre. C'était le chaos et la désolation. Vous voyez, tout le monde était là dans cette situation. Les gens voyaient les choses, mais personne ne trouvait ça vraiment important. Personne ne trouvait ça important que des gens ne soient plus à temps plein pour servir Dieu. Personne ne trouvait ça important que ce qui devait être pour Dieu ne soit pas finalement donné à Dieu. Tous les gens et tout le peuple étaient là et voyaient ces choses. Et personne ne trouvait ça important. Et pourtant, c'était important aux yeux de Dieu. Et Néhémie avait une mentalité totalement différente. À cause de ce qui était vraiment important aux yeux de Dieu, il a procédé à des changements dans sa vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons être assis sur notre chaise, au culte, tout en pensant aimer et servir Dieu. Mais en fait, le seul moment où nous servons Dieu, c'est lorsque nous faisons quelque chose. Lorsque nous écoutons le pasteur parler, et moi-même j'écoute le pasteur parler, nous nous faisons servir. Nous ne sommes pas en train de servir Dieu. Par contre, lorsque le dimanche matin, nous changeons la couche d'un bébé dans la pouponnière, le bébé d'une maman de l'église pour qu'elle puisse assister à cette réunion, être édifiée, nous sommes en train de servir Dieu. Les choses ne se voient pas. Vous voyez, il y a des services qui se voient bien. Là, vous me voyez tous bien. Par contre, vous ne savez pas qui en ce moment s'occupe des bébés à la pouponnière. Vous ne savez pas qui c'est. Pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas. Vous ne savez pas qui a pris le temps cette semaine de prier et de préparer son message et des jeux en rapport avec son message pour enseigner les enfants et les amener à plus. Vous ne savez pas qui est cette personne parce qu'elle est derrière, en train de s'occuper des enfants. Vous ne savez pas qui a installé la salle et qui a installé ses instruments parce que vous n'étiez pas là. Des choses qui ne se voient pas. Ce sont des choses importantes pour Dieu. Les choses qui se voient souvent ne sont pas si importantes pour Dieu. Ou parfois, elles sont importantes, mais il y a encore des choses plus importantes. Vous voyez, je peux prêcher quelque chose. Je peux vous dire certaines choses. Mais la Bible dit qu'à celui qui a enseigné, on demandera des comptes. Et si je vous prêche quelque chose que demain je ne vis pas, que je ne mets pas tous mes efforts pour vivre ce que je prêche, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. On peut parler et dire beaucoup de choses. Mais ce que Dieu, le vrai service de Dieu, ce n'est pas lorsque je vous dis de faire des choses, c'est lorsque je les fais moi-même. Et on peut porter le nom de chrétien, mais ce n'est pas porter le nom de chrétien qui fait quelque chose, c'est lorsqu'on manifeste ce qu'est véritablement un chrétien. C'est lorsqu'on voit les fruits, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et nous devons répondre aux besoins des gens et régulièrement nous poser des questions, mais comment, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire ? Quand nous voyons certains besoins, on devrait prendre le temps de mieux en mieux. C'est ça qui est bien, c'est que Dieu nous appelle à croître et à grandir. Nous sommes imparfaits, mais Dieu veut nous perfectionner. Dieu veut nous changer parce que nous avons besoin de changer. Mon pasteur a prêché un message sur le service quand j'avais 20 ans. Et je me souviens, il était vraiment enthousiaste et il s'attendait à recevoir beaucoup de gens. Mais personne ne se proposa. Il avait prêché de tout son cœur un bon message sur le service, mais personne ne vient le voir. C'est tellement facile de paraître être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Tellement facile de bénéficier du nom de chrétien. Mais s'il est difficile de discerner un vrai chrétien, il n'est pas difficile de discerner un vrai disciple. C'est facile de voir un vrai disciple. C'est plus difficile de voir si un chrétien est véritablement un chrétien. Puisque le disciple fait comme son maître. Le chrétien n'est qu'un nom qu'on a donné au disciple. Le disciple fait les mêmes choses que son maître. Le cœur du disciple et son service, il est né dans l'amour. Le chrétien peut facilement faire des actions qui paraissent être spirituelles, mais son problème est qu'il n'a pas le cœur qui va avec ses actions. Pourquoi son service n'est pas né dans l'amour ? Jésus a dit donc, occupez-vous de ce qui est important, la miséricorde. La miséricorde, c'est la bonté ou la bonne volonté envers les misérables ou envers les affligés ou tout simplement envers les gens qui sont dans le besoin, joint à un désir réel de les aider. C'est le vouloir, mais c'est aussi le faire. On a beaucoup de vouloir en nous, mais ils deviennent importants lorsqu'on fait, lorsqu'on agit sur ce vouloir. Donc, en résumé, le véritable chrétien pose des actions régulières pour aider les gens, même si personne ne le voit. Et si les gens voient son action, ils ne s'enorgueillent pas, mais ils conservent un cœur pur, un cœur de serviteur, un cœur d'humilité. Jésus a dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les pharisiens, ils se sacrifiaient constamment pour plaire à Dieu, pour pratiquer des lois qu'ils avaient eux-mêmes créées. Et pour eux, c'était inimaginable que des pécheurs puissent, tels qu'ils étaient, s'approcher de Dieu et obtenir l'agrément de Dieu. Parce que pour eux, il fallait payer un prix dur pour être agréé de Dieu. Pour eux, il fallait offrir des sacrifices et faire des sacrifices pour être approuvé de Dieu. Alors que pour Jésus, il fallait simplement aimer pour être approuvé de Dieu. C'est toute une différence. Dans Jacques, au chapitre 2, au verset 14, il est écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ?» Ça veut dire de dire qu'il est chrétien, de dire que c'est un enfant de Dieu, de témoigner autour de lui « Voilà, je suis chrétien, voilà comment Dieu a changé ma vie. » S'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous ne dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas des œuvres. Elle est morte en elle-même. Se faire appeler chrétien, c'est une chose, mais avoir les œuvres réelles du chrétien, c'en est une autre. Que sert-il de faire les choses secondaires, comme de donner sa dîme, de faire des choses, si ça ne correspond pas réellement à une offrande qui vient du cœur ? Si par notre offrande, nous croyons démontrer notre amour pour Dieu, nous devrions le démontrer en aimant notre prochain. Oui, Dieu est pour les offrandes. Dieu agrée nos offrandes. La Bible dit même dans notre nouvelle alliance que cela donne de la joie au cœur de Dieu. La Bible dit que c'est une offrande, un sacrifice qui plaît à Dieu et qui lui est agréable. Donc oui, Dieu, l'argent qu'il a mis dans nos mains, lorsque nous lui remettons cet argent, ça lui plaît, ça lui est agréable, lorsqu'il se donnait toujours avec un cœur sincère. Dieu cherche la sincérité. Dieu ne veut pas l'hypocrisie, mais Dieu cherche en nous la sincérité. Et pour terminer un dernier verset, l'apôtre Paul a dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous combattez d'une même âme pour la foi de l'évangile. » L'apôtre Paul voulait voir une église qui ne servait pas non seulement quand il était là, présent, et qu'il pouvait dire « Félicitations, c'est bien, tu travailles bien. » Mais il voulait voir ces gens travailler activement pour le royaume de Dieu, de tout leur cœur, aussi lorsqu'ils n'étaient pas là. Et Dieu voit tout et en tout temps. Et nous devrions vraiment réfléchir à ce qui est vraiment important dans notre vie. Qu'est-ce qui est vraiment important ? Pas selon nous, mais selon Dieu. Pour Dieu, qu'est-ce qui est véritablement important ? Si nous lisons la parole de Dieu, nous réaliserons les choses qui sont importantes pour Dieu. Entre autres, Jésus a dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile à toute la création et faites des disciples. Aimez les gens. Donnez à celui qui demande. » Voilà les choses importantes pour Dieu. Et nous sommes tous imparfaits dans notre service pour Dieu, mais nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons changer. Nous pouvons faire quelque chose de nouveau. Nous pouvons, dans notre planning, le transformer, le modeler, pour laisser une place à ce qui est vraiment important. Comment pourrions-nous nous lever le matin et vivre notre journée sans s'occuper de ce qui est vraiment important, sans prendre un temps à part pour Dieu et parler à Dieu, adorer Dieu et le louer? Un disciple de Jésus, c'est celui qui vit pour Dieu, c'est celui qui aime Dieu, c'est celui qui parle à Dieu, c'est celui qui prend du temps avec Dieu parce qu'il l'aime, parce qu'il est sa priorité. Le service pour le disciple, ce n'est pas quelque chose qui lui coûte parce qu'il fait les choses dans l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui est dur pour lui finalement parce qu'il aime. Pour les pharisiens religieux, nous avons dit que donner un peu d'argent, ce n'est pas difficile, mais s'il devait tout donner, ce serait difficile. Par contre, le disciple de Jésus, s'il devait tout donner, ce serait facile parce qu'il aime Dieu. Il aime Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager tous ensemble à servir Dieu de tout notre cœur, à servir Dieu dans l'Église lorsque nous sommes ensemble, mais à servir Dieu aussi dans nos maisons, par la prière. La prière est quelque chose de vraiment important pour Dieu. La Bible dit « Priez sans cesse ». Il y a des gens qui sont dans le besoin et Dieu a besoin d'intercesseurs. Dieu a besoin de gens qui se tiennent à la brèche et qui prient. Mais alors que nous allons dans notre travail, voir des collègues, voir la famille, posons-nous la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour Dieu? Lorsque nous recevons des gens à la maison, est-ce que pour Dieu ce qui est important, c'est d'avoir très bien fait le ménage, faire le meilleur menu possible, faire le meilleur poulet possible? Ou est-ce que pour Dieu ce qui est vraiment important, c'est de donner une parole de bénédiction pour cette personne? On peut travailler longtemps, toute notre vie, dans ce qui n'est pas vraiment important, en délaissant et en ignorant ce qui est vraiment important pour Dieu. Et Dieu nous appelle à nous occuper des choses qui sont véritablement importantes pour lui. Et si nous avons un cœur pour ça, Dieu nous parlera. Très clairement, il nous parlera. Vous êtes bénis en Jésus-Christ et nous le sommes en lui. Cette semaine, cherchez Dieu dans vos maisons. Cherchez le Seigneur. Et posez-vous la question, Père, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Méditez la parole de Dieu, priez simplement. Dieu vous montrera, Dieu vous ouvrira les yeux. Je vous dis bonne semaine à tous.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.